là, après avoir vu un exemple très précis, très local, qui nous touche tous en tant que Nantais, en tant qu'habitant de l'Ouest, etc., on va essayer d'élargir largement la focale et essayer de regarder comment ça se passe au niveau international. Alors, ce qu'on voit là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est que le mot ingouvernable, il traverse les milieux, les générations et les frontières. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a un mouvement étudiant dans le nord de l'Italie, notamment à Bologne, où un des mots d'ordre, c'est « génération ingouvernable ». Également, après l'investiture de Donald Trump aux USA, il y avait énormément de banderoles et de tags « soyons ingouvernables »,« génération ingouvernable », etc. Et évidemment, ce mot d'ordre, on l'a retrouvé également à Paris, au moment de la loi travail, et encore tout récemment, comme on disait tout à l'heure, au début du mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà des revendications classiques. On voit qu'on est arrivé quelque part à la fin d'un cycle, et les revendications qu'on retrouve, y compris dans les émeutes, les mouvements sociaux, etc., c'est ce nouveau mot d'ordre d'ingouvernable. Et évidemment, pendant que certains le disent, le tag, le mettent sur des banderoles, d'autres essayent de le mettre en pratique, c'est-à-dire par exemple au Rojava, au Kurdistan en ce moment, au Chiapas, au Mexique, ou encore à la ZAD, comme on vient de le voir. Mais on va y revenir. Donc avant d'essayer de comprendre ce que ça veut dire ingouvernable et les implications, qu'est-ce que ça veut dire être gouverné déjà ? Et qu'est-ce que ça veut dire être gouverné aujourd'hui dans un contexte en Occident capitaliste, aujourd'hui, au début du troisième millénaire ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a un contexte général de discrédit assez global et assez mondial, sans précédent de la classe politique. On le voit, hein, si Trump a pu gagner les élections, c'est qu'il y a un discrédit à peu près total de la classe politique et qu'il a pu s'imposer en mêlant une culture de talk show, de présentateurs télé, de vulgarité, de racisme et d'injures à l'égard de ses concurrents. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé, quoi. C'est une sorte de mauvais cartoon. On a vu qu'en France, on a un président qui a atteint le sommet de l'impopularité. Enfin, disons, un taux d'impopularité sans précédent depuis le début de la Ve République. Et ça, c'est une situation qui est assez générale, en fait, dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'il y a un discrédit assez fort de ceux qui dirigent. Alors, dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une reconfiguration autoritaire des démocraties capitalistes. Alors là, comme ça fait un peu gros mot, là, ce que je viens de dire. Mais en fait, ça s'illustre assez simplement, hein. C'est par des nouvelles façons de gouverner, par des nouvelles gouvernances. Alors on voit que depuis que Trump est élu, il gouverne par décret. Hein. En deux semaines, il a fait passer toute une série de décrets directement qui réinstaurent la torture, qui vise à expulser, à interdire de territoire certains étrangers. Enfin, je ne fais pas la liste, vous avez dû les voir. Donc voilà, il y a ça. Il y a également un gouvernement de gauche en France qui a gouverné pendant 5 ans par le 49-3, le flashball et l'état d'urgence. Donc ça, c'est aussi une nouvelle façon de gouverner en France. Hein. On voit qu'il y a encore 10 ans, c'était impensable d'imposer toute une série de lois par la force. Et aujourd'hui, c'est envisageable, hein, dans un contexte de durcissement. Il y a également les déclarations, sans doute, enfin, c'est un petit peu compromis, mais d'un futur présidentiable qui s'appelle François Fillon. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'est une vidéo où il parlait cet été devant un parterre d'entrepreneurs, et il disait moi, quand j'arriverai au pouvoir, ce que je vais faire, c'est que je vais mener une blitzkrieg sociale. Donc la blitzkrieg, c'est la guerre éclair, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais mener une blitzkrieg sociale, c'est-à-dire que je vais attaquer tellement vite et tellement fort que c'est une stratégie du choc, que mes adversaires ne pourront pas réagir et qu'il n'y aura pas de mouvements sociaux. Donc je vais entièrement faire passer une série de lois de casse sociale en quelques semaines, par le 49-3, par décret, etc. Donc on voit que ce discours-là, il est de plus en plus assumé un petit peu partout dans les démocraties occidentales. Dans cette idée, il y a également la manifestation d'État qui s'assume comme une espèce de miroir inversé de leur ennemi intérieur. C'est-à-dire ils se mettent à copier l'ennemi désigné par le pouvoir. C'est-à-dire que, très concrètement, au Mexique, on a vu que la police s'alliait avec des cartels et régnait comme des gangs. On a vu qu'ils ont fait qu'il y a une alliance de cartels et de gangs qui ont fait disparaître 43 étudiants opposants à Ayotzinapa, qui est au Mexique, il y a un an et demi. On voit qu'aux Philippines, le nouveau gouvernement philippin, non seulement Rodrigo Duterte, pour ceux qui connaissent, a notamment injurié l'ensemble le pape, l'ONU, etc. Il les traite de, je ne dirais pas les insultes qui sont sexistes, évidemment, mais... Et il se vante, par exemple, d'avoir exécuté de ses propres mains des dealers. Et il a appelé la population et la police à ouvrir le feu sur tous les trafiquants de drogue et ceux qui en consomment. Donc on voit que là, il y a une espèce de miroir inversé où on a des dirigeants qui se comportent comme des chefs de gang. Et c'est accepté, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle image du pouvoir. Il n'y a plus de respectabilité. Dans cette logique-là, on a également Poutine qui parlait de buter les terroristes jusque dans les chiottes, de les accrocher à des crocs de boucher, etc. Enfin, il y a encore quelques années. Et en France, on voit bien qu'on a une nouvelle logique antiterroriste où la police également se comporte sur fond d'état d'urgence comme un gang et considère les adversaires comme des bandes rivales. On ne va pas revenir sur l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, hein, qui n'est pas si isolée que ça. C'est-à-dire qu'on a des flics dans les quartiers qui se comportent comme une bande contre d'autres bandes. Et donc ça, c'est également agir en miroir de l'ennemi intérieur. Alors en parallèle de cette nouvelle forme de gouverner, il y a un effondrement des gauches, de partis, des gauches organisées et des structures traditionnelles des mouvements sociaux. Alors ça c'est pareil, on le voit en France, aux USA, on le voit dans énormément de pays, en Espagne, on y reviendra d'ailleurs cette semaine lors de débats. Et des nouvelles formes de mouvements sociaux. Mais ce discrédit général, il nourrit un durcissement généralisé de la situation, un durcissement généralisé à la fois social, politique, policier, militaire. On voit qu'il y a eu une explosion, par exemple, des achats de ventes d'armes dans le monde. On a atteint, en termes de volume d'argent dans les ventes d'armes, quelque chose d'inégalé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que dans une situation de durcissement général, du durcissement du pouvoir, de fébrilité, également de grande volatilité. Comme je disais tout à l'heure, la surprise de Trump, on peut évoquer le Brexit, on peut évoquer aussi la campagne présidentielle en France. On n'a jamais atteint un tel niveau de volatilité. On voit que les 4 ou 5 têtes favorites en France peuvent d'un seul coup se disloquer, s'effondrer. Les favoris d'hier sont les perdants d'aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même une situation où on a énormément de mal à voir ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et donc c'est là-dessus, c'est sur ce contexte-là que j'essaye de brosser très très rapidement avec quelques idées, hein, on pourra y revenir en discutant, qu'il y a cette nouvelle exigence qui traverse un petit peu les frontières d'être ingouvernable. Alors comment être ingouvernable? Donc là on a eu une explication assez détaillée sur les ZAD, et notamment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, qui est vraiment une démonstration. On peut dresser quand même plusieurs hypothèses comme ça pour commencer, pour lancer un petit peu la discussion. Donc il y a l'idée de faire sécession. Alors c'est un peu le cas sur la ZAD, mais ils font pas seulement sécession. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire que dans les années 70, les gens qui sont partis du milieu citadin pour aller faire des fermes autogérées, etc., ils ont fait sécession. La ZAD, elle apporte quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'elle s'implante sur un projet de bétonnage pour affronter le pouvoir. Donc il y a à la fois une dimension de sécession et d'affrontement. Également dans cette logique-là, il y a des quartiers dans certaines villes. Par exemple, le quartier d'Exarchia à Athènes, qui est un quartier plus ou moins autogéré, où la police ne rentre plus, mais où également il y a énormément de problèmes qui se posent avec les problèmes de deal et les problèmes de vie commune, etc. Et oui, comme l'a dit l'intervenant précédent, sur la ZAD, il y a également eu quelque chose de très fort qui s'est passé, c'est qu'au début, il y a initialement une sécession, une agrégation de forces, mais également, ce qui s'est passé, c'est que les ZAD se sont positionnés, jusqu'au moment de la loi travail, comme la seule opposition un petit peu conséquente au quinquennat Hollande, et là, ça a été très fort, en fait, c'est ça qui a permis, on voit qu'il y a une soif d'en découdre, mais en découdre avec des bases, des points d'appui et des choses concrètes. Deuxième hypothèse, l'hypothèse du Rojava, qui est une façon de s'extraire, d'être ingouvernable, ou au moins de s'extraire d'un côté du pouvoir autoritaire turc, et de l'autre de prendre le territoire, et enfin de garder, de défendre le territoire face à Daesh, au Rojava. Alors là, c'est un processus qui passe par la guerre, donc c'est un processus qui peut évoquer par exemple la guerre d'Espagne en 1936, où les révolutionnaires espagnols disaient « on fait la révolution et la guerre en même temps ». Donc là, Et donc, ça soulève énormément de questions. Et donc, ça, on va y revenir dans cette semaine également sur le confédéralisme démocratique, comment il fonctionne, comment la vie est gérée au niveau de communes, etc. Ça va être assez intéressant. Il y a également, j'y reviens encore, mais c'est quand même assez important, toutes ces nouvelles formes de contestation qui sont du tout insaisissables, c'est-à-dire qui sortent, qui s'inspirent de différentes formes, qui passent, y compris par des réseaux sociaux, qui prennent des exemples à l'étranger, qui s'inspirent des mouvements contre les projets d'aménagement, etc. Et donc, parmi elles, évidemment, la loi travail, enfin, toute l'agitation du printemps qui a duré jusqu'en septembre dernier. Et ce qu'on voit, c'est que c'est également une façon de s'extraire, une façon d'être ingouvernable. D'une part, parce qu'il s'agit de mettre en échec la police et de prendre la rue, etc. Mais surtout, parce qu'on a vu que tout au long du printemps, la classe politique brûlait d'envie de commencer sa campagne présidentielle. Alors d'habitude, une campagne présidentielle, elle commence un an et demi, deux ans avant avant les élections. Et là, pendant tout le printemps, au début de l'été, et même pendant l'été, la classe politique brûlait de commencer sa campagne présidentielle. Elle ne pouvait pas, puisqu'il y avait encore cette espèce de difficulté. Le temps de la contestation mangeait le temps de l'élection. C'était deux temps qui ne pouvaient pas se superposer. Et il a fallu un petit peu le baroud d'honneur, le moment final du 15 septembre, la dernière manifestation contre la loi travail, pour qu'immédiatement, il y ait ce rouleau compresseur électoral avec la primaire de la droite, la surenchère sur l'islam, le matraquage sécuritaire, etc. Mais avant, on voit qu'on a été, on a eu une sorte de bouffée d'oxygène entre la fin du mandat d'Hollande et le début de la campagne présidentielle. Et ça, ça a été une façon d'être ingouvernable par la lutte et par une nouvelle forme de mouvement social qui, à Nantes, prenait la rue toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, systématiquement occupait des places, s'appropriait la politique. Et pour finir, être ingouvernable, en fait, il faut, comme on l'a vu sur l'exemple de la ZAD, qui était très intéressant, parce que la ZAD, le pouvoir a tenté de détruire la ZAD, d'abord par la voie policière, ça a été un échec, l'opération César, puis par la voie judiciaire, la tentative, les tentatives, voilà, des juges de faire expulser la ZAD, d'exproprier, etc. Donc encore une fois, échec, mobilisation populaire. Et le pouvoir a dégainé l'arme la plus dangereuse, c'est la démocratie. C'est-à-dire que dans énormément d'autres cas d'aménagement du territoire, quand il y a un sujet qui pose problème comme ça, on met en place un référendum biaisé. Il y a eu ça à Stuttgart, en Allemagne, où il y avait un mouvement extrêmement déterminé. Les Grünen, les écolos allemands ont demandé un référendum, ils ont perdu. L'ensemble de la lutte s'est retrouvé désarmé, le projet de gare s'est fait. Alors que là, on voit que la question de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a réussi à dépasser cette question de voter ou ne pas voter. Et de la même manière, il faut qu'on essaye de réfléchir comme ça, de ne pas être dans une logique doctrinaire avec ceux qui comptent, à tort ou à raison, sans doute voter aux prochaines élections, même si ils sont de plus en plus minoritaires, mais essayer de réfléchir à comment on va se retrouver dans la praxis et rompre l'isolement. Jusqu'au premier tour de la présidentielle. Donc voilà un petit peu une série de pistes comme ça que j'ai jeté un peu rapidement sur le papier cet après-midi, mais c'est des amorces de discussion. Voilà, la parole est à vous.